Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Dans cette émission, je donne la parole à Yannick Billard, que j'ai rencontré sur un salon du livre où il est venu présenter sur le stand de l'éditeur Transboréal le livre Dans la roue du Petit Prince. Dans cette émission, Yannick nous parle de cette histoire incroyable où il part avec Marie-Hélène, sa femme et leurs trois enfants en vélo sur plus de 7000 km avec un objectif, rencontrer les personnages du Petit Prince. Le projet interpelle, comment rencontrer ces personnes fictives ? Écoutez ce podcast et vous aurez peut-être quelques éléments de réponse. Et on commence cash dans le vif du sujet. Donc l'émission s'appelle « Regarde d'ailleurs ». L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers des parcours de vie, des partages d'expériences. Je t'ai rencontré rapidement sur un festival au Grand Bivouac où tu étais là avec un bouquin, dans la roue du Petit Prince. Et là, tu es sur un autre salon avec le même bouquin qui raconte, je crois, un voyage en famille à vélo. Donc on va en parler avec toi Yannick Billard, que je découvre sur le stand de Transboréal, ici au Salon du Tourisme. Donc Yannick, raconte-moi tout, j'aimerais peut-être commencer par le début. Qui es-tu ? Comment tu te présenterais ?
Alors moi du coup je suis un doux rêveur, un petit peu comme Saint-Exupéry, qui a souvent un peu la tête dans les étoiles. Et voilà, tout a commencé en fait en revenant du Sénégal où je travaille, j'y vais deux fois par an pour le travail, où moi mon métier c'est de mener des projets de solidarité internationale là-bas. Et en revenant dans l'avion, un moment, en pleine nuit, je regarde par le hublot et je vois une lueur au beau milieu du désert. C'était complètement improbable, il n'y a aucune raison qu'il y ait une lueur à cet endroit-là. J'ai pas l'explication de ce que c'est, mais pour moi, ça a été un appel. Et c'est ça qui a déclenché l'envie de partir, de voyager. Et je me suis dit, et si c'était le Petit Prince qui était revenu au milieu du désert ? Et de cette idée est né ce projet et cette envie de voyager en famille.
Alors avant de parler de ton bouquin et de ce voyage en famille sur les traces du Petit Prince, tu me dis que tu vis au Sénégal en bossant sur des projets de solidarité internationale. Donc toi, qu'est-ce qui s'est passé à titre perso ? Tu as toujours su, enfant, que tu voulais t'expatrier. À quel moment tu as eu ce goût de l'ailleurs, cette envie d'ailleurs ?
Alors je ne vis pas au Sénégal, j'y vais deux fois par an, du coup sur des périodes d'à peu près 15 jours. Non, moi à la fois on est très ancré nous chez nous en Savoie, puisque du coup moi je suis passionné de montagne, ma femme est agricultrice là-bas. Mais effectivement j'ai ce besoin d'ailleurs qui est évident. Et pour moi, c'est avant tout, j'ai besoin d'interculturalité. J'ai besoin, en fait, de pas rester dans mes certitudes. J'ai besoin que une culture de quelqu'un d'autre me permette de découvrir le monde, de me remettre en cause en permanence. Et j'apprécie particulièrement l'interculturalité avec l'Afrique, que je trouve très complémentaire de notre culture européenne. Et donc, c'est vrai que on avait fait un premier voyage en vélo. On a traversé toute l'Afrique en vélo. Et du coup, ça nous a permis de se questionner sur les autres cultures, les cultures africaines, les questions de solidarité internationale. Et quand je suis rentré de ce premier voyage à vélo en 2005-2006, j'ai décidé de changer de vie, de changer de métier. Et je me suis investi en solidarité internationale. Et j'en ai fait mon métier, ma passion.
Qu'est-ce qui t'a emmené en 2005-2006 à tout quitter pour faire une traversée de l'Afrique en vélo ? C'est quand même audacieux.
Alors là, c'était la fin des études, l'envie d'aller voir ailleurs avant peut-être de s'installer en agriculture. Donc ma femme s'est finalement installée, mais moi non. Moi du coup, ça m'a vraiment complètement bouleversé, fait découvrir le monde. Et on est parti sur une phrase de Gandhi qui dit « vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre ». Et quand on avait 25 ans, on disait « mais ça veut dire quoi vivre simplement ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres arrivent à mieux vivre ?» On était vraiment avec des questions fondamentales de se dire « mais quelle vie on veut mener ? On veut pas juste mener notre vie en France comme ça. On a envie d'être des citoyens du monde, mais c'était des concepts tout ça, on voyait pas ce que ça voulait dire. » Et donc on a fait ce voyage-là, on a rencontré 30 projets de solidarité internationale pour voir en fait quel impact ça avait sur le terrain. Et on a fini au Cap de Bonne-Espérance, qui était très symbolique, en disant « voilà, on est revenu avec un espoir fou de que les choses allaient changer ». Alors vieillissant, on s'aperçoit que ça change, mais tout doucement. C'est ça qui nous a porté, qui nous a donné envie d'aller voir le monde et d'aller voir ailleurs.
Tu parles de cette envie d'ailleurs, qu'est-ce qui motive ça en soi ? Pourquoi toi tu as eu cette envie d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette interculturalité comme tu dis ?
En fait, donc je vais utiliser un mot un peu barbare, mais pour moi c'est vraiment quand on arrive à toucher à l'altérité. L'altérité c'est que la personne est tout autre, l'autre est complètement différent de soi. Et pour moi, en fait, quand on se confronte à ça, du coup, on est obligé, ça nous donne l'occasion de se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, quand je vois mes collègues qui me disent, j'arrive à communiquer avec mon père qui est déjà décédé depuis 2 ans, Je peux que juste le croire, mais pour moi c'est pas si évident que ça. Et en fait, ça m'attise ma curiosité, ça m'intéresse, et me dire, bah voilà, d'autres ont d'autres visions du monde, et finalement, en nous qui sommes nés en France, on nous a convaincus depuis tout petit que notre culture était la bonne, que c'était la culture de référence, on est très ethnocentré. Et en fait, plus on voyage, plus on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de façons de voir la vie, de plein de façons de voir le monde. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses. Et parce que du coup, ça m'oblige, moi, à... Voilà, me diversifier. Je parlais de Gandhi, de Saint-Exupéry. Moi, je suis pas quelqu'un qui a une grande, grande culture. Je me réfère à une culture assez populaire. Mais par contre, voilà, cette vision du monde est très, très riche pour moi. Et ça, c'est super.
Il y a cette notion de changer de croyance. Alors, c'est vraiment ça, quoi. Comprendre que, ben, finalement, chacun a sa vérité, mais que la vérité est multiple. Et ça se frottait vraiment à ce conditionnement et ce déconditionnement de soi.
Oui, même moi j'en arrive presque, et c'est pour ça que je fais des voyages comme ça qui racontent aussi des histoires. Je suis même aujourd'hui convaincu qu'on peut inventer nos réalités, qu'en fait la réalité elle n'est pas toute faite, que c'est à nous de décider voilà, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'imaginer, ce qu'on a envie de percevoir du monde. Et voilà, tous les gens se disent non, il y a une vérité, elle est factuelle, elle est comme ça. Et moi je pense que non, en fait, on s'invente chacun nos réalités en fonction de qui on est, des lunettes avec lesquelles on regarde les choses. En voyage, moi j'ai plusieurs fois expérimenté le fait que un jour on va pas bien, et du coup on voit tout négativement, on a l'impression que les gens sont mauvais autour de nous. Et puis le lendemain, on a une super patate, on a une banane, et là tout va bien. Et en fait, on est au même endroit. Les gens fondamentalement autour de nous n'ont pas évolué, c'est juste nous qui avons changé. Et le fait nous de changer fait que du coup le monde est complètement différent. Et donc c'est pour ça que je suis persuadé qu'en fait il n'y a pas une réalité, il y a la réalité qu'on construit nous à travers notre propre regard, et ça on l'apprend en voyageant.
J'aime bien penser que tout est possible et que tout est une question de mindset, hein, de manière dont effectivement on perçoit les choses, on observe le monde autour de soi. Il y a cette magie aussi du voyage qu'on observe, je trouve. Est-ce que toi tu le ressens aussi, tu dis quand tu es de bonne humeur, ben, les curseurs sont au vert, et quand tu te lèves de mauvaise humeur, rien ne va.
En fait, quand on se met en voyage, c'est-à-dire que pour moi on se met dans une condition où on a envie de rencontre, on a envie de découvrir autre chose, et ça c'est plus un mode de pensée. J'ai une fois fait un atelier très intéressant où quelqu'un en fait pendant une heure et demie nous a fait travailler sur nos cinq sens, nous a mis dans une certaine condition, nous a réouvert voilà, à percevoir tout ce qui était autour. On était dans une pièce fermée, on était une quinzaine, et au bout d'une heure et demie il a ouvert la porte, il a dit allez dehors, vous faites un tour du quartier, vous écrivez toutes vos sensations, tout votre ressenti, et vous rentrez, vous nous remettez un carnet de voyage. On avait une heure pour faire le tour du quartier. Et jamais on avait vu ce quartier qu'on connaissait par cœur, un endroit où on est allé tous les jours. Et on l'a vu totalement différemment parce qu'on s'était conditionné à le voir différemment et à avoir nos sens en éveil. Et pour moi, quand on part voyager, on met nos sens en éveil. Alors c'est beau, c'est dur de le faire tous les jours au quotidien, mais c'est possible de le faire. Et quand on le fait, c'est super intéressant et super riche.
Est-ce qu'on arrive à garder cet émerveillement ici dans son quotidien ? Ce que tu dis, quand on est en voyage, on met tous nos sens en éveil. C'est plus facile parce que la différence est tout autour de nous. Donc il y a cet enfant intérieur finalement qui va s'émerveiller des odeurs, des couleurs, des saveurs, de tout ce qu'on va vivre. Est-ce que tu arrives à garder ce regard émerveillé, peut-être de petit prince, ici dans ta vie en France ?
Je pense que si on le gardait en permanence, en fait, ce serait absolument épuisant pour nous. Je pense que c'est à mon avis ce que vivent un peu les gens qui sont autistes, c'est-à-dire qu'ils ont leur sens tellement en éveil qu'à un moment tout est très fort. On a aussi besoin de rentrer dans des phases où on se pose et on est dans un certain confort intellectuel, dans une certaine sécurité de ce qui nous entoure. Et c'est aussi agréable en fait de savoir qu'on est un peu dans un cocon, qu'on est dans nos habitudes. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis jamais allé vivre complètement à l'étranger, parce que je vis tellement intensément quand je suis dans la différence que de temps en temps j'ai besoin de revenir dans mon camp de base. D'être chez moi et d'être dans un environnement que je connais par cœur, que j'apprécie, que je peux redécouvrir sur des micro-détails de temps en temps, mais où globalement il y a une sécurité. Donc moi je ne cherche pas à être tout le temps dans un état de voyage, je pense que ce serait épuisant au bout d'un moment, je pense que ça pourrait être compliqué. Par contre j'ai un peu cette addiction d'avoir besoin régulièrement de retrouver cet état-là, et je pense qu'on peut le retrouver même autour de chez soi. Donc voilà, pour moi c'est un peu un équilibre, avec de temps en temps le fait de découvrir des choses extraordinaires, et puis de temps en temps le fait de se contenter aussi de ce qu'on a qui est autour de soi. Et je pense que c'est important, et c'est aussi un message pour ce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui écoutent ton émission, et de dire attention au fait de vouloir toujours être dans cette espèce d'état d'excitation, et qu'en fait c'est aussi très très agréable d'être dans un, voilà, d'être aussi chez soi, d'être bien avec soi, d'être dans un environnement qu'on connaît bien, d'être avec ses amis, sa famille, et qu'on peut pas tout le temps être dans l'état d'excitation du voyage.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Yannick, qu'est-ce que tu fais entre deux voyages? Comme tu n'es pas tout le temps dans cette excitation du voyage, hein, tu choisis de rentrer. Qu'est-ce qui se passe entre deux voyages? Qu'est-ce que tu vis comme réalité?
Ben voilà, avec ma femme, donc on a monté une ferme en fait, en petits fruits rouges avec quelques moutons. Et donc on s'occupe de notre petit bout de planète. Voilà, donc c'est encore une fois référence au Petit Prince, mais qu'est-ce qu'on fait quand on voyage pas? Bah, on s'occupe de notre petite planète. Nous, on a juste 2,5 hectares, hein, c'est vraiment très très modeste, tout petit, mais on adore ça. Et puis on adore aussi randonner en montagne, s'occuper de nos enfants, être en famille, donc des choses somme toute assez classiques. Et puis bah, le travail aussi qui prend une bonne partie de la semaine.
Des moutons, la planète, le Petit Prince, on va en parler, mais avant de parler de ce bouquin que tu présentes ici sur le salon, j'ai cru comprendre que dans le voyage, tu utilises la mobilité douce, tu parles de vélo, comment tu en es venu à vouloir voyager en vélo? Pourquoi le vélo comme moyen de déplacement?
Alors c'est vraiment dès mon adolescence, j'ai rencontré des premiers voyageurs à vélo, j'ai vu des premiers reportages là-dessus et ça m'est apparu comme une évidence. Pour moi, en fait, quand on est en vélo, il n'y a pas de carapace autour, on est vraiment ouvert au monde. Et puis c'est à la fois doux et à la fois c'est quand même rapide par rapport à de la marche, ce qui permet d'imaginer plus facilement des grandes distances, des envies d'aller très loin et d'aller vraiment ailleurs. Et donc j'ai testé très jeune le voyage à vélo et ça m'a toujours pleinement satisfait. Aussi parce que moi je suis fondamentalement un rural et donc dans un voyage à vélo on passe la plus grande partie de son temps en milieu rural. On est très peu dans les villes, on n'est pas très adapté d'ailleurs quand on est en ville en voyageur à vélo. Et du coup voilà, moi c'est vraiment le mode de voyage qui me plaît le plus.
Tu en as expérimenté d'autres ?
J'ai fait aussi pas mal de rando, en fait, de rando itinérante. Et donc ça me plaît aussi pas mal. Mais pour moi, on est beaucoup, beaucoup en nature. On est moins à la rencontre des gens. Donc je réserve plutôt ça, en fait, quand je suis dans les Alpes, dans les montagnes, par chez moi, plus que quand voilà, je vais loin à l'étranger. Où là, c'est vraiment à chaque fois le vélo que j'ai choisi de prendre.
Donc là, tu es papa. Tu as vécu une expérience de voyage en famille. Tu voyageais déjà avant d'être papa ?
Oui, on avait fait donc un premier voyage quand on était en couple tous les deux. On a eu notre premier enfant juste en revenant de ce grand voyage-là. On a fait d'autres petits voyages, mais c'était vraiment le grand voyage là avec les enfants, c'était une première.
Donc le grand voyage en couple avant l'arrivée des enfants, c'était la traversée de l'Afrique jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
En vélo, en partant de ?
De Chambéry, pareil, du même endroit les deux fois. Et donc on a traversé toute l'Europe, le Proche-Orient. À l'époque, la Syrie n'était pas en guerre, donc on a traversé la Syrie. Puis on est allé en Égypte, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Malawi, et après l'Afrique du Sud. Et c'était un voyage qui avait la forme d'un point d'interrogation en fait, sur le planisphère entre Europe et Afrique. Et on a posé la question des inégalités entre le Nord et le Sud en allant rencontrer donc 30 initiatives de solidarité internationale.
Donc là, dans ce premier voyage, dans ce premier long voyage, il y avait déjà un projet d'écriture ou un projet de film? Comment tu as valorisé la production, les questions que tu as pu poser?
Alors il y a eu un diaporama, le livre c'était une idée mais un peu somme toute comme ça, et donc ça a donné lieu d'un livre mais qui a été voilà, assez long à accoucher, qui a mis 2 ans et demi après le retour parce qu'on s'était pas très préparé en fait à écrire un livre tout de suite. Mais voilà, on avait vraiment besoin, c'était vraiment le voyage initiatique, le voyage de jeune où on met toute sa vie dedans et on a besoin d'écrire et de comprendre ce qui nous est arrivé, donc c'est pour ça qu'on a aussi écrit un livre à cette époque-là.
Qu'est-ce que c'est d'être auteur? Parce que j'imagine, parce que c'était déjà un rêve enfant que tu avais d'écrire un livre, ou pas du tout, comment est-ce qu'on devient auteur? Comment est-ce qu'on devient écrivain?
Alors moi, je vais avoir une histoire assez particulière, mais qui peut encourager peut-être beaucoup de jeunes. Non, moi, je suis devenu auteur par la douleur, on va dire. Au départ, moi, je suis dyslexique. Donc en fait, en étant dyslexique, j'avais vraiment des problèmes à l'école. Dans tous les cours de français, j'ai été cassé toute ma scolarité à dire, t'y arriveras jamais, t'y arriveras jamais. Et du coup, ma maman m'a fait énormément travailler, m'a fait écrire, lire ce que je pouvais, mais c'est très dur quand on est dyslexique de lire. Et en fait, à force de faire cet exercice, j'y ai vraiment pris goût. J'ai pris goût à écrire ce que je faisais, ce que je vivais pendant mes vacances, tout ça, etc. Et de ça est né le plaisir d'écrire, même si ça reste très compliqué pour moi, de cet exercice au départ pédagogique. Et du coup, voilà, quand j'ai écrit ce premier livre, c'était improbable pour tout le monde, quoi, qu'un dyslexique qui a autant de difficultés puisse écrire un livre. Et le livre a bien marché. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis capable, j'ai des idées, je peux faire des choses. Et je pense qu'il y avait un peu cette volonté de montrer qu'on peut forcer le destin et qu'à un moment, à force de travail, on arrive aussi à combattre ces handicaps qu'on a dans la vie. Et donc voilà, c'est plus ça, moi, qui m'a poussé au départ à écrire. Et puis le côté, après, moi, ce que j'ai aimé, c'est raconter des histoires. Voilà, je vous l'ai dit un peu, je suis un rêveur et j'aime bien raconter des histoires aux autres, raconter des belles petites histoires. Et donc voilà, quand on écrit un livre, c'est cette occasion-là qui nous est donnée.
Belle success story. Alors, ton livre préféré ?
Le Petit Prince, hein, c'est pas un grand scoop, c'est aussi pour ça que je suis parti derrière. Parce que c'est un livre à la fois assez simple, à la fois très profond, donc simple justement pour quelqu'un comme moi qui ait des difficultés de lecture, etc. Mais très très profond dans son contenu, donc on peut éternellement le lire, le relire, le retravailler, le comprendre. Et donc voilà, c'est vraiment un équilibre parfait pour moi comme livre.
On ne voit bien qu'avec le cœur. A écrit un jour un très grand voyageur. Et l'essentiel est invisible aux yeux de ceux qui ne rêvent pas d'impossible. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu y as fait naître un matin. Sur le chemin, j'ai rencontré un renard qui voulait être apprivoisé. Il m'a confié un doux secret et j'ai enfin compris que tu m'aimais. Tu as la clé de mon jardin et ton sourire est chacun de mes dessins. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu as fait naître un matin. Et dans le ciel immense de millions d'étoiles embaume la nuit de constellations florales. Car je sais que ta rose m'attend au ciel. J'attends pour l'atteindre une envolée d'hirondelles.
Donc Le Petit Prince a donné naissance à ce voyage. Tu parlais au début de cette émission d'un voyage entre le Sénégal et la France où tu as vu cette bulle ou cette boule de lumière en imaginant, en rêvant, peut-être que Le Petit Prince était de retour. Donc tu rentres chez toi et comment ça se passe? Comment on se met en place un voyage au long cours avec trois enfants à vélo de Chambéry jusque où?
Alors déjà, comment ça se met en place? Le premier truc, c'est d'en parler à toute la famille. Donc quand je reviens de ce voyage en avion où je vois ça, je dis à ma femme, je suis décidé, faut qu'on parte, j'ai envie d'aller jusqu'au Sénégal, jusqu'à Bignona en vélo. Ça l'a pas plus surprise que ça parce que voilà, on avait déjà vécu ce premier voyage, elle savait que je rêvais de repartir. Depuis longtemps, je lui disais, on repartira en 2020. En fait, on est parti un an avant parce que ma femme a eu une difficulté professionnelle sur sa ferme. Du coup, ça lui a donné l'opportunité d'être libre en 2019. Puis avec le confinement, on a eu cette chance-là. Donc ça, c'était le premier élément, c'était qu'on soit convaincus en couple. Et puis après, on en a parlé aux enfants. Et alors, eux, on leur aurait dit, on construit une fusée, on va sur la Lune. Ça ne les aurait pas étonnés, en fait. Les gamins, ils suivent les parents. À partir du moment où les parents ont cette idée-là, ils disent pourquoi pas. Et puis c'est vrai que voilà, notre entourage savait qu'on avait déjà fait un premier voyage à vélo, qu'on parle beaucoup de ça et qu'on avait envie. Donc ça n'a pas surpris grand monde, à part mes collègues sénégalais qui eux alors s'y attendaient absolument pas qu'un jour il y ait un fada qui fasse le trajet en vélo d'un bout à l'autre. Et voilà, donc là ça a été plutôt marrant aussi de créer ça. Et puis une fois qu'on a cette idée, voilà, on creuse, on commence son carnet de voyage, on écrit des choses là-dessus et on se dit voilà, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est comme ça que les choses avancent et se mettent en place progressivement.
Quel âge les enfants?
Alors 7, 10 et 12 ans au moment du départ et notre petite dernière a fêté ses 8 ans pendant le voyage.
Donc tu pars avec ta femme et trois enfants de Savoie pour aller vers le Sénégal. Donc comment est-ce qu'on organise l'itinéraire? Qu'est-ce qu'on emmène avec soi? Tu disais vivre simplement pour que tout simplement vivre, mais c'est quand même une sacrée logistique de partir à 5 en vélo sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
Ayant l'avantage d'un premier voyage à vélo, nous, c'est pas la partie qu'on a beaucoup travaillé. On s'est peu focalisé sur les vélos, sur ce qu'il fallait mettre dans les sacoches. Je disais, on avait un peu cette expérience-là. Ça a été chercher une tente qui a été très compliquée parce qu'on voulait une tente où on puisse être tous ensemble et mettre nos vélos dedans. Mais donc, c'est pas la partie où on a passé beaucoup de temps. Moi, là où j'ai vraiment mis de l'énergie, c'est sur préparer le fond du voyage. Quelles rencontres on allait faire? Où étaient les personnages du Petit Prince? Comment ça pourrait parler aux enfants et nous parler à nous aussi? Et donc ça, c'est, voilà, c'est 18 mois de préparation avant, c'est le soir quand je rentre du boulot, où je vais chercher sur internet, j'essaye de faire des rencontres, de voir des projets, d'essayer de comprendre voilà, qui pourrait être un allumeur de réverbère, comment j'allais pas rencontrer un buveur, mais j'allais pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, de plus positif. Donc voilà, j'ai beaucoup cherché autour de ça, et puis progressivement, j'avais un point de départ, un point d'arrivée, puis j'ai trouvé des points intermédiaires, et c'est comme ça que le voyage s'est dessiné au fur et à mesure. Donc je suis voilà, dans mon bureau, avec des grandes cartes affichées partout sur les murs, et puis j'ai mis plein de points sur les cartes jusqu'à un moment bah, finir par faire des choix et dessiner la totalité du trajet.
Yannick, tu dis que tu es un rêveur, alors fais-nous rêver, parce que l'idée c'était vraiment de rencontrer les personnages du Petit Prince. Tu parles de l'allumeur de réverbère, mais tu as le comptable, tu as le mouton, tu as la rose, enfin je les ai plus tous en tête, mais il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on les rencontre? Qui sont ces personnages dans la vraie vie? Et le Petit Prince, où est-il? Et le pilote, raconte-nous, enfin emmène-nous avec toi dans les étoiles. Sur l'astéroïde B612.
Et bien justement, en parlant d'astéroïde B612, un des premiers contacts, ça a été avec l'astronome. Donc, trouver un astronome. Alors, je vois un observatoire dans les Pyrénées, en haut des montagnes, donc le pic du Midi de Bigorre. Et moi, j'y vais au culot, quoi. J'envoie un mail au pic du Midi de Bigorre en disant, notre projet, on voudrait rencontrer l'astronome du Petit Prince. Est-ce que vous seriez prêt à nous recevoir, à nous faire visiter l'observatoire? Très surpris, à peine 5 jours après, le directeur du site me dit, écoutez, votre projet, je le trouve formidable, je vous accueille. Et quand on arrive sur place, on s'aperçoit que c'est son dernier jour en tant que directeur à l'observatoire. Et lui nous dit, en fait, je suis devenu astronome grâce au Petit Prince. C'est aussi mon livre favori. Et là, vous me permettez, le plus beau jour de ma carrière, c'est d'interpréter le rôle de l'astronome du Petit Prince. Avec mes 3 enfants qui étaient convaincus que c'était l'astronome du Petit Prince, hein, du coup, qui lui posait des questions comme ça, qui lui le bombardait de questions. Lui nous a fait visiter la totalité de l'observatoire. Et donc, dès qu'on arrive là-haut et qu'il nous fait visiter tout ça, du coup, on se rend compte en fait que cette aventure qui nous motivait nous va pouvoir motiver plein d'autres personnes et qu'en fait, on n'est pas les seuls à rêver autour du Petit Prince, tout ça. Et en fait, c'est ça, toutes les rencontres, ça a été un peu ça, c'est qu'on s'aperçoit que du coup, nous, on avait envie de rencontrer des gens et eux, en fait, étaient ravis aussi de pouvoir interpréter les personnages du Petit Prince. Donc voilà, ça, c'est avec l'astronome, mais par exemple, le businessman, moi, je voulais un social businessman, donc j'ai trouvé quelqu'un à Lisbonne qui, tous les soirs, organisait une collecte des surplus alimentaires. Donc, il fait la tournée des restaurants, des bars, etc., entre 18h et 20h le soir. Les commerçants lui donnent tous les restes qu'il a. Et puis, il reconditionne juste les produits et à 22h, il va la servir aux sans-domicile fixe qui n'ont pas de repas. Moi, je trouve ça formidable, quoi. Et le gars, il a commencé tout seul avec son vélo et aujourd'hui, il a 7000 bénévoles qui font ce travail-là avec lui. Donc ça, voilà, c'est l'entrepreneur social, le businessman qui, lui, alors, cherche pas à avoir des étoiles, mais cherche à mettre des étoiles dans les yeux des gens. Et c'était assez formidable, assez génial. Et donc voilà, c'est plein de petits points comme ça où on se dit qu'on rencontre. Alors après, c'est des idées. Je voulais pas rencontrer un roi. Par contre, je me suis dit, aujourd'hui, s'il fallait trouver un roi dans notre époque actuelle, c'est quoi? Je me suis dit, déjà, ce serait une reine, parce qu'il faut arrêter avec le pouvoir masculin. Et donc, on a rencontré des jeunes du mouvement Girl Move, qui sont des jeunes de Mozambique qui viennent à Lisbonne, en fait, pour 3 mois de stage, et qui deviennent des leaders féminins quand elles rentrent dans leur pays. Donc, voilà, c'est plein de petites histoires comme ça que moi, j'ai trouvé formidables, et ça m'a vraiment intéressé de construire des petites histoires sur chacun des personnages du Petit Prince.
Et tous ces personnages, donc tu avais anticipé les rencontres ou est-ce qu'il y a des personnages du livre que tu as rencontrés sur l'itinéraire?
En fait, après, il y a des zones géographiques qui sont ciblées. Par exemple, les renards, je savais qu'à un moment au Maroc, on créerait une grande amitié, mais je ne savais pas forcément avec qui et où particulièrement. Donc voilà, on laisse le voyage nous surprendre. Les roses, en fait, on a décidé de traverser la vallée des roses, mais en disant, on verra bien. En fait, la rose, elle était avec moi depuis le début du voyage. C'était ma rose à moi, que j'en mets depuis le début. Mais c'est dans la vallée des roses que j'ai pu lui écrire un poème. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui fait qu'il y a aussi la géographie du voyage qui, par moment, suscite des émotions. On est passé à Tarfaya, Cap-Juby. C'est l'endroit où Saint-Exupéry a été en poste restante quand il était à l'aéropostal et où il a inventé toute l'histoire du Petit Prince. Et donc voilà, revoir ces lieux, voir l'endroit où Saint-Exupéry a écrit son histoire, on a vu son bureau, on a vu là où il a écrit les choses. Et voilà, ça, c'était hyper émouvant. Et c'est pas des choses, moi, je savais pas ce qu'on allait voir quand on arriverait à Tarfaya, à Cap-Juby. Mais voilà, c'est le voyage après qui nous fait découvrir. Donc c'est vrai que quand on arrive à la fin, on se dit, c'est magique, tout était bien planifié. En fait, il y avait une part de planifié, une part aussi de découverte. Et puis, entre ces points de rencontre des personnages, tout le reste n'était absolument pas prévu. On n'a pas de trace GPS, on sait pas où on va dormir, on sait pas ce qu'on va manger. Donc c'est vraiment l'aventure au premier sens du terme.
Yannick, comment s'est passée la rencontre avec le renard ?
Alors la rencontre avec le renard, c'est vraiment dans la ville de Taroudan. Donc déjà, on arrive dans une ville au Maroc où tout le monde circule à vélo. Donc déjà, ça a le chic de nous plaire. On vient de traverser l'Atlas marocain, on est très très fatigué. Et on arrive à cet endroit-là et quelqu'un nous avait passé le contact d'un ami à lui. En disant vous pouvez arriver et voilà lui demander. Donc comme on était fatigué, on se dit tiens, ça peut être un bon endroit pour s'arrêter. Et là on s'arrête à Taroudan au sud du Maroc, et là en fait c'est pas une personne qui nous accueille, c'est tout un groupe de jeunes, toute une association qui s'appelle l'association Amoudou, qui veut dire voyage en berbère. Et 5 jours durant, on n'arrivait plus à partir. Ils nous invitaient à aller voir le cours de boxe, à manger chez les uns, à manger chez les autres, à participer à un cours de langue, à échanger sur notre voyage. Ils nous ont demandé de faire une conférence. Ils nous ont demandé de faire une petite aventure à vélo juste à côté de la ville. Et voilà, on s'est fait apprivoiser, en fait, pas par une personne, mais par un groupe de personnes, progressivement, les uns après les autres. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de larmes quand on est parti de Taroudan.
C'est quoi tes phrases préférées du Petit Prince ?
Ah, je sais pas, de Saint-Exupéry, en tout cas, c'est une phrase sur la responsabilité qui dit que voilà, chacun peut poser sa pierre pour participer à la construction du monde. Donc ça, c'est peut-être la phrase de Saint-Exupéry pour moi qui est la plus forte. Et voilà, même si elle est très classique, j'avoue qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, reste quelque chose qui m'a profondément marqué. J'aime bien aussi, par rapport à tout ce qu'on vient de dire de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve ta réalité. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien.
Tu utilisais aussi le mot apprivoiser ?
Apprivoiser, oui, finalement, j'y ai donné vraiment tout un autre sens et j'ai peut-être à travers ce voyage mieux compris la différence entre le fait d'apprivoiser en amitié et le fait de s'amouracher, alors c'est pas très beau, mais voilà, de tomber vraiment en amour d'une rose et voilà, de percevoir vraiment la différence entre, on s'apprivoise aussi hein, quand on se met en couple, quand on tombe amoureux, mais c'est pas du tout la même chose et c'est pas ce qu'on vit de la même façon. Et j'aime bien finalement ces deux notions et le côté d'apprivoiser me plaît aussi. Ouais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et finalement, le Petit Prince, vous l'avez rencontré ou pas ?
Alors, on a chacun rencontré notre Petit Prince. Donc moi, je vais parler de la façon dont je l'ai rencontré. C'était dans le désert. On est monté en fait tout en haut d'une dune en Mauritanie, en haut du mont Zarga, qui est une dune particulière qui fait 250 mètres de haut. En fait, il y a une falaise rocheuse avec une petite échancrure tout en haut. Et le sable s'engouffre dans l'échancrure et derrière, ça forme une immense dune très très haute. Et donc on est allé jusque là et ça a été voilà un soir absolument fabuleux et quelque chose s'est passé pour toute la famille. Enfin, on était vraiment sur notre petit nuage, c'était rayonnant. Et donc on descend de cette dune là, on bivouac au pied de la dune et en fait au beau milieu de la nuit, moi je dormais pas, j'arrivais absolument pas à dormir. Et donc avec tout ce qu'on avait vécu, donc je suis parti me balader, c'était clair de lune, je suis parti me balader dans le désert tout seul de nuit. Et là à un moment, alors pour certains ça paraîtra fou, mais c'est plus moi qui marchais. C'était moi petit. En fait, je me voyais moi petit en train de marcher au milieu des dunes. J'avais voilà, quelques années, effectivement, les cheveux blonds comme un petit prince. C'est aussi pour ça que cette histoire m'a plu. On m'appelait toujours le petit prince quand j'étais petit. Et en fait, je me suis revécu petit. Et donc, voilà, une rencontre très, très troublante où en fait, j'ai compris qu'à un moment, j'étais en train de sortir de moi-même, une espèce de méditation du désert. Je pense qu'il faut y être allé pour comprendre ce que je peux évoquer. De très, très forte, quelque chose de qui nous a touché intérieurement et qui m'a pas quitté après jusqu'à la fin du voyage. C'est-à-dire que je suis resté dans cet état où je vivais les choses, mais je me voyais aussi extérieur à moi-même en train de vivre les choses. Donc, j'avais une espèce de double réalité. Et donc, c'était, voilà, très, très prenant, très, très fort, ce que je raconte effectivement dans le livre. Et mes enfants, en fait, après, on a essayé de leur faire rencontrer aussi chacun leur petit prince. Alors eux, c'est très différent, ils sont encore enfants, donc ils n'allaient pas retrouver leur petit prince intérieur, enfin leur enfant intérieur, mais chacun a trouvé un trait de personnalité très fort de lui-même et a permis de mieux se découvrir. Donc voilà, on a découvert le petit prince à l'intérieur de nous-mêmes, mais à travers cette expérience très forte du voyage et finalement de la marche dans le désert.
Combien de temps aura duré le voyage dans son intégralité et comment s'est passée la dernière étape, l'arrivée à Dakar ?
Alors on est arrivé donc à Bignona en Casamance, tout au sud, le voyage a duré 6 mois. Et donc ce qui était particulier, c'est que tout au long de ce voyage-là, on a fait financer nos kilomètres par les gens qui nous suivaient sur notre blog. Et donc on est arrivé avec une bonne somme, avec 8000 euros à l'arrivée du voyage, de ce que les gens nous avaient donné. Et on l'a remis en fait à nos amis sénégalais qu'on allait rencontrer pour qu'ils montent un club de vélo. Et la grande surprise, c'est que je leur avais annoncé l'idée, pourquoi en collecter. Mais quand on est arrivé, en fait, ils avaient déjà commencé le travail. Ils avaient retapé plus de 500 vélos dans la ville. Et donc, on est arrivé avec 500 cyclistes le jour de l'arrivée qui nous ont accompagnés. On a fait un tour de ville avec eux. Et donc là, moi, j'étais hyper ému parce que j'allais régulièrement là-bas, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de vélos. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas. C'est parce qu'ils ont retapé. Donc aujourd'hui, voilà, c'est notre façon de faire perdurer le voyage et de le faire continuer. C'est qu'il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place dans la ville où on est arrivé à Bignona, avec un atelier de vélo, un club de vélo, des sorties qui sont organisées, plein d'enfants qui vont maintenant à l'école à vélo. Et voilà, on a l'impression que c'est un petit peu la graine que nous, on a semée en faisant ce voyage-là.
Dernière question, Yannick. J'aimerais que tu t'adresses à toutes les familles qui ont des enfants et qui ont des rêves de voyage. Donc toi, tu l'as rendu possible. Hein, tu es parti à 5 avec tes 3 enfants sur les traces du Petit Prince pendant 6 mois en vélo. Ça fait forcément rêver beaucoup de monde. Ça inspire aussi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce type d'aventure un peu folle ?
Et ben moi, je leur dirais que tout l'enjeu, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est que le danger, c'est papa, maman voyage et les enfants suivent. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il faut réussir à construire un projet où les enfants vont être autant partie prenante que les parents. Il faut vraiment que ce soit un voyage familial où toute la famille fait son voyage. Ça ne veut pas dire qu'on fera tous le même voyage. Nous, on était 5, on a fait 5 voyages différents. Chacun l'a vécu à sa façon. On avait par exemple 5 carnets de voyage différents. Donc c'était très riche, et donc c'est un peu le conseil que je donnerais, c'est dire vos enfants sont hyper adaptables, sont capables de s'adapter presque à tout. Par contre, vous parents, peut-être votre responsabilité, c'est de leur construire une aventure qui permette qu'ils s'y retrouvent pleinement tout au long du projet et de l'aventure et du voyage.
Yannick, merci. Donc Yannick et Marie-Hélène Billard, après avoir rallié le Cap de Bonne-Espérance à vélo de 2005 à 2006, sont repartis avec leurs 3 enfants de 7 à 12 ans, Amandine, Colline et Simon, à l'été 2019. Donc vous quittez Chambéry pour un voyage qui vous conduira à travers les cols des Pyrénées, les montagnes de l'Atlas, le désert de Mauritanie, jusqu'à Bignoma en Casamance. Donc 7000 km en vélo qui sont racontés dans ce bouquin, dans La roue du Petit Prince, publié aux éditions Transboréal. Merci à toi.
Merci beaucoup et bon voyage.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous.